On continue avec le monde diplomatique de septembre. Et là, on va en Bolivie, de haut en bas de la Bolivie. C'est un reportage de Maurice Lemoine avec des dessins d'Alexis Lemoine. Très bon dessin, c'est très bon. Et voilà, on s'intéresse à la situation en Bolivie entre le haut et le bas. Il se trouve que c'est le bas qui est riche, le haut qui est pauvre en Bolivie.
Oui, c'est un peu ça. C'est ça l'habitude de la radio. Hein. On va vite à l'essentiel.
On simplifie.
Bon, alors, la Bolivie, vous savez, c'est un pays qui fait partie de l'axe du mal, vu depuis Washington, c'est-à-dire Venezuela, Équateur, Bolivie, Nicaragua. C'est un pays où, rappelez-vous, quand Evo Morales a été élu, le premier Indien élu en Amérique latine, je crois qu'on a déjà eu l'occasion d'en parler, mais c'était extraordinaire dans nos médias. On a eu des feux d'artifice, du violon, après 500 ans de marginalisation, enfin un Indien arrive au pouvoir en Amérique latine. Et puis souvenez-vous, quelques mois après, Evo Morales a nationalisé les hydrocarbures.
Une fois qu'on aura récupéré ces ressources, cela générera du travail. C'est la fin du pillage de nos ressources naturelles par les multinationales du pétrole.
Et là, évidemment, on n'a pas eu tout à fait la même chanson, pas tout à fait le même couplet. C'est devenu, mais qu'est-ce que c'est que cet abruti d'Indien qui est la marionnette de Hugo Chavez et Fidel Castro?
Bien. Comme quoi, la diversité, il faut être prudent.
Il faut être extrêmement prudent. Alors, la situation en Bolivie, aujourd'hui, à l'heure où on parle, est extrêmement préoccupante. Parce qu'on est, on peut y compris prononcer le mot de... Vous savez que la Bolivie, dans son histoire républicaine, a eu plus de 180 coups d'État, qui étaient des coups d'État militaires. C'est un pays très instable, c'est le pays le plus pauvre d'Amérique latine. Il y a peut-être une corrélation d'ailleurs entre les deux éléments. Et là, on peut se demander si en ce moment, il n'y a pas une tentative de coup d'État civil. Les militaires sont hors jeu en ce moment. C'est pas très bien vu, les coups d'État militaires en Amérique latine, par rapport au grand discours sur la gouvernance, la démocratie, etc. Mais il y a actuellement, si on prend ce qui s'est passé la semaine dernière, on a vu dans les départements de l'opposition, qui sont les départements qu'on appelle de la médialuna, c'est-à-dire c'est géographiquement qui encerclent les hauts plateaux, les fameux hauts plateaux où sont situés les plus pauvres. On a eu dans le département de Pando des travailleurs de la préfecture qui ont attaqué des installations gouvernementales. On a eu à Trinidad, dans le Béni, 200 personnes qui ont envahi les installations des impôts, de la représentation présidentielle, il y a eu des cocktails Molotov, attaques contre les militaires. À Santa Cruz, en août dernier, l'opposition a attaqué le commandant de la police, les commissariats de police. On est dans une espèce de posture de sédition, littéralement. Et c'est d'autant plus paradoxal qu'au mois d'août dernier, on a eu un référendum révocatoire, que le président Evo Morales a gagné avec 67% des voix. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, lorsque l'opposition bolivienne se réclame de la démocratie, on a plutôt l'impression qu'elle considère que la minorité donne le droit de gouverner le pays.
Les rues de Santa Cruz sont désertes, les magasins et les banques sont restés fermés, la circulation réduite au minimum. Depuis mardi, Santa Cruz, bastion de l'opposition au président Morales, ainsi que quatre autres provinces du pays, ont entamé une grève générale. Les manifestants réclament une plus grande part des revenus du secteur énergétique. Depuis plusieurs jours, la tension était vive dans ces régions autonomistes du pays. La police a dû disperser la foule lorsqu'ont éclaté des affrontements entre groupes rivaux.
Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va vers une sécession?
Est-ce qu'on va vers une sécession? Je veux dire, on est à un stade très préoccupant, je l'ai dit, puisque y compris le gouvernement, là actuellement, l'a annoncé en fin de semaine dernière, envisage d'instaurer un état de siège dans les régions en turbulence. Donc la situation est extrêmement sérieuse. Alors ensuite se pose aussi la question d'ailleurs de la gestion d'Evo Morales. Il est évident que c'est pas parce que c'est un gouvernement de gauche qu'il ne commet pas des erreurs.
Ah bon?
Non. Non, bien sûr que non. Ce qui ne retire rien à sa légitimité, y compris malgré ses erreurs, il a été confirmé dans ses fonctions par 67% de la population. Qu'est-ce qui se passe en Bolivie? On est dans le pays le plus pauvre d'Amérique latine et donc tout naturellement, j'allais dire, Après avoir nationalisé les hydrocarbures, le gouvernement qui a tiré de cette nationalisation des revenus beaucoup plus importants que ce qu'il touchait auparavant a redirigé ces sommes supplémentaires qui ont intégré le budget national en direction des plus pauvres. Donc on a eu une série de mesures, comme on a dans tous les pays où des présidents essayent de changer les choses, le Venezuela, l'Équateur, avec par exemple la renta d'unidad. C'est-à-dire la renta d'unidad, c'est 20 euros par mois pour les plus de 60 ans. Alors vous allez me dire, 20 euros, franchement, c'est pas foulé, hein, mais rappelez-vous le contexte, on est dans le pays le plus pauvre d'Amérique latine, et compte tenu du niveau de vie des Boliviens les plus pauvres, en particulier des Indiens, 20 euros par mois, c'est quelque chose de tout à fait spectaculaire. Et puis il y a eu une série de mesures, il y a eu l'alphabétisation, environ 1 million de personnes, avec une méthode QN, ce qui a toujours en général tendance à ranimer un peu l'opposition.
Cubaine. Ah, cubaine.
Si puedo, que la même qui a été utilisée
au Venezuela
par Chavez. Série de mesures qui, incontestablement, ont le soutien et l'approbation de la population. Sauf que, dans ce pays, la majorité des pauvres sont indiens. Bien. C'est donc vers eux que se dirigent ces politiques sociales. Ce qui fait se poser la question à beaucoup, mais est-ce qu'on ne serait pas en face d'une politique indigéniste ? Bon. C'est-à-dire que là où ailleurs on parle de populisme, en Bolivie on parle d'indigénisme. Et y compris c'est un discours qui a pris dans une partie de la classe moyenne qui avait voté pour Evo Morales. C'est-à-dire des gens qui sont métis ou qui sont blancs et qui vous disent « oui mais nous on voulait sortir du racisme et là on est en train d'assister à un racisme à l'envers. C'est tout pour les Indiens ». De sorte que ceux qu'on pourrait appeler les séparatistes, même y compris pour certains les fascistes, ont réussi à récupérer une partie de la classe moyenne qui, au départ, souhaitait le changement dans le pays. Et qui se rassemble autour d'un drapeau qui est le drapeau de l'autonomie. Bon. Dans les quatre régions qui sont des régions autonomistes, on en a deux qui ont évidemment pour le pays une importance vitale parce que c'est là que se produisent les hydrocarbures. Hein, le gaz, Santa Cruz, Tarija. Bon, il se trouve que ces quatre départements, Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando, ont organisé un référendum totalement illégal. Totalement illégal.
Mais qui dit
oui à l'autonomie. Or,
c'est curieux, j'ai remarqué un truc, c'est que les riches ne veulent jamais payer pour les pauvres.
Exactement. Alors, les gens à Santa Cruz, y compris le préfet, que j'ai eu la chance de rencontrer, vous disent, mais attention, on n'est pas ici, on n'est pas des séparatistes, on est pour une autonomie. Vous comprenez, l'autonomie ici, c'est porté par les courants de la gauche modérée, comme vous en Europe, la gauche humaniste, la gauche progressiste. Tout le monde est de gauche en Bolivie. Sauf que, et on vous dit, c'est pas le Kosovo. Sauf quand même qu'il y a un petit truc qui gêne un peu, c'est que l'actuel ambassadeur des États-Unis en Bolivie, et qu'on voit souvent avec l'opposition à Santa Cruz, était précédemment en poste au Kosovo. C'est pas de chance, c'est pas de peau,
c'est un hasard,
mais il n'en demeure pas moins que c'est un fait. Alors quand on voit le...
Promotion.
C'est la promotion, oui. Si on voit, oui, parce que Santa Cruz, c'est pas une ville déplaisante, autant les hauts plateaux sont assiégés par la misère, hein, c'est les hauts plateaux qui sont à 4000 mètres, avec ces populations indiennes qui ont été abandonnées depuis toujours par la République bolivienne. Santa Cruz, qui est le cœur économique de la Bolivie, est une ville finalement assez agréable, et je comprends très bien que l'ambassadeur des États-Unis s'y plaise beaucoup plus qu'à La Paz. Au terme de ce référendum illégal organisé par les régions d'opposition, les départements d'opposition, je peux vous donner en deux mots les statuts de Santa Cruz. Santa Cruz s'octroie comme prérogative le téléphone fixe et mobile, les télécommunications, les routes et les chemins de fer, la définition des politiques et des programmes de l'éducation, l'électrification urbaine et rurale, la politique énergétique, les régimes du travail, de la sécurité sociale et de la santé, l'administration de la justice, la désignation des responsables des institutions et organismes de l'État, la création d'une police. Et on vous dit, mais non, attention, c'est une autonomie, c'est pas du séparatisme. Mais donc, la bourgeoisie de Santa Cruz a appuyé tous les coups d'État militaires. C'est elle qui a financé le coup d'État militaire du général Banzer. Et puis ensuite, lorsqu'est arrivé en Bolivie ce qu'on a appelé le bulldozer néolibéral, dans lequel le pays a été complètement bradé aux intérêts des multinationales, tous ces gens-là étaient au gouvernement. Et c'était les plus centralistes. Et c'est seulement à partir de 2003, lorsqu'est montée la force du mouvement populaire, lorsque le système a commencé à prendre l'eau avec la guerre de l'eau à Cochabamba, avec la guerre du gaz, et qu'ils ont senti leur intérêt menacé, qu'ils ont récupéré le mot d'ordre d'autonomie, et qu'ils ont réussi, en bénéficiant de l'aide des médias boliviens, a créé un courant d'opinion tendant à prouver que l'autonomie, c'était la démocratie, c'était la décentralisation. Et d'une certaine manière, ils ont réussi à se remettre en selle pour défendre à nouveau leurs intérêts, parce qu'en fait, l'autonomie s'en tape complètement, si je peux me permettre de parler comme dans la vie.
Merci.